franceinter.fr.
Voyage sur les traces génétiques du Yéti aujourd'hui à la une de la science.
Bonjour !
Yéti !
C'est un monstre !
Non, laissez-moi, allez-vous-en !
Yéti, je t'en prie, va-t'en vite, sinon ils te tueront. Retourne sur tes montagnes, là où le monde est meilleur.
Voilà, ça n'était pas Brigitte Bardot, non, c'était le film Yéti, le géant d'un autre monde, film italien des années 70. Et pour parler de cette étude qui paraît aujourd'hui et qui révèle une bonne fois pour toutes l'animal à l'origine de la légende du Yéti, eh bien cette analyse ADN de 9 reliques de prétendus Yéti qui dévoile une population d'ours assez mal connue des montagnes de l'Himalaya, et on en discute avec une spécialiste de la question, Axel.
Oui, on est au téléphone avec Géraldine Véron, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur au Muséum National d'Histoire Naturelle, spécialiste des mammifères carnivores, et vous étiez commissaire de l'exposition Espèces d'ours l'année dernière au Muséum. Est-ce qu'il y avait vraiment un débat scientifique autour de cette question de l'identité du Yéti ?
Oh ben, c'est surtout que ça fait longtemps que tout le monde parle du Yéti et des échantillons. On a tous eu en main ou vu des poils de soi-disant Yéti, et en fait la plupart des scientifiques étaient d'accord pour dire que c'était quand même certainement un ours. Et qu'il y a beaucoup de croyances dans plein d'endroits reculés comme ça, où dès qu'on voit des animaux un peu imposants, on imagine des créatures absolument horribles, et en fait souvent ce sont des ours.
Vous avez eu des poils de Yéti, vous, entre les mains ou pas?
Un collègue qui nous avait un jour dit qu'il faudrait qu'on analyse des poils qui seraient peut-être des poils de Yéti, effectivement. Oh. C'était Michel Tranier, des figures du Muséum d'Histoire Naturelle, qui avait ça un jour entre les mains, qu'un collègue avait essayé de lui faire analyser.
Donc c'est une légende aussi au niveau des scientifiques. Comment ces chercheurs ici ont trouvé de l'ADN de Yéti alors?
Ben oui.
Alors, en fait, il y a un certain nombre de reliques qui sont connues comme étant attribuées au Yéti. Donc, il y en a qui sont retrouvées dans des monastères. Il y avait des dents, il y avait même une crotte qui aurait été collectée, soi-disant, effectivement, à un moment où quelqu'un aurait suivi un Yéti, j'en sais rien, quand il cherche ses besoins. Enfin, tous ces restes, en fait, avaient déjà été une fois, enfin, l'un d'entre eux avait été analysé. Ça avait fait débat parce qu'ils avaient trouvé que c'était peut-être de l'ours polaire ou peut-être un hybride d'ours polaire et d'ours brun, et la plupart des scientifiques disaient oui, mais ils ont fait ça sur un fragment d'ADN en fait trop petit et pas très significatif pour déterminer ce que c'était. Là, la différence, ils ont échantillonné, ils avaient 9 échantillons, ils ont fait un petit peu plus d'ADN, hein, même si c'est pas très très clair dans l'étude, si vraiment ils ont analysé des grands fragments, plutôt des petits fragments, parce que c'est du matériel un peu difficile. Et sur ces 9, bon, alors il y en a un qui est quand même du chien, donc
il
y a quand même, tout est
rien à voir.
Voilà, et les autres sont des ours effectivement de la région, tous, soit des ours bruns, la plupart, et un ours noir asiatique.
Donc la balance penche vers cet ours brun alors?
Oui, voilà, apparemment ce serait à chaque fois qu'ils ont trouvé ces restes ou qu'ils ont conservé des restes, il y a des os aussi par exemple, et ce serait plutôt de l'ours brun local, on va dire, himalayen, tibétain.
Alors si on devait dresser un peu son portrait à ce Yéti, on dirait quoi scientifiquement?
Bah là, tout simplement que c'est un ours himalayen, simplement. Donc en fait, c'est un ours brun. Donc l'ours brun, c'est une espèce qui vit en Eurasie et en Amérique du Nord. Là, ce qui est très intéressant, c'est que le fait qu'ils aient étudié ces échantillons plus d'autres échantillons collectés notamment au Pakistan, ils ont montré que cette population d'ours brun, donc dans l'Himalaya, et une autre population sur le plateau tibétain, serait assez divergente en fait des autres ours bruns. Et ça, c'est un résultat assez intéressant, et puis ça a une implication en termes de conservation de cette population, évidemment.
Parce qu'on est possible de dresser l'histoire évolutive de cet ours maintenant ?
Oui, en fait, ils ont non seulement étudié ces échantillons un peu anciens sur lesquels ils ont pu faire des petits fragments d'ADN, mais ils ont aussi utilisé d'autres échantillons un petit peu plus faciles à analyser en faisant des analyses de génome mitochondriaux complet cette fois. Donc ça, ils ont un gros jeu de données produit par eux-mêmes, mais aussi en récupérant énormément de séquences qui étaient déjà présentes dans les banques de données. Et là, donc, ils ont fait une analyse assez poussée et également des datations. C'est-à-dire qu'en calibrant les arbres phylogénétiques obtenus avec des restes fossiles, ils ont pu dater les événements. et estimer que cette population d'ours donc himalayens serait une des plus anciennes en fait populations divergentes des ours bruns, probablement isolées à la suite des glaciations, hein, lors d'un réchauffement, ils auraient pu remonter un peu sur ces régions à la suite des fontes de glaciers et se seraient retrouvés ensuite un peu isolés. Donc ce serait une espèce de reliquat d'une population isolée dans cette région.
Mais alors Géraldine Véron, comment on peut confondre un yéti avec un ours? Parce que quand on voit les images des yétis, c'est un grand ours avec un visage de singe quand même, a priori.
Alors c'est là où il y a une part peut-être de l'imagination, je ne sais pas. Enfin, il faut voir quand même que les ours bruns sont quand même de très gros animaux qui ont tendance à se dresser sur leurs pattes. Et il y a énormément de régions du monde où il y a des croyances comme ça sur des hommes bizarres ou des hommes ours. Donc c'est assez fréquent en fait. Hein. C'est quand même une très grosse bête qui peut faire plus de 2 mètres de haut. Après, sur le fait d'y voir un visage de primate, ça j'avoue que je ne vois pas d'où vient cette idée. Je pense que voilà, comme dans toute croyance, il y a une part d'imagination.
Mais au final, cette histoire de Yeti, c'était la motivation première de ces recherches ou simplement un moyen de faire de la génétique des populations des ours de la région?
Ben, je pense qu'en fait, c'était peut-être un moyen pour eux indirect. S'ils soupçonnaient que ce soit de l'ours brun himalayen ou tibétain, c'est un bon moyen d'avoir des échantillons finalement auxquels on n'en a pas beaucoup. Hein. C'est des populations qui sont très peu étudiées. Et donc finalement, que ce soit sur le plateau du Tibet ou sur les zones reculées de certaines parties de l'Himalaya, c'est un moyen indirect d'avoir des échantillons à analyser. Et effectivement, il se trouve qu'ils ont eu raison puisque ça a augmenté leur échantillonnage d'ours himalayen. Et ça a permis de mieux comprendre les populations de cet ours brun, mais aussi de l'ours noir himalayen. Donc il y a aussi une autre espèce dans la région qui est un ours dit accolier, qui est l'ours noir asiatique. Et de même, ils ont montré qu'il y avait une population d'ours noir asiatique relativement isolée. Donc là, on parle quand même de populations... pour l'ours brun himalayen, isolé à plus de 650 milliers d'années, et pour l'ours noir asiatique himalayen, plutôt aux alentours de 470 milliers d'années, hein, pas millions bien sûr. Donc des choses qui remontent à certaines glaciations assez anciennes du Pléistocène, donc une histoire assez intéressante.
Il n'y a pas un petit côté déceptif pour le folklore local, pour les populations locales, de révéler l'identité du Yéti comme ça?
Bah pour eux peut-être, parce que c'est certaines de ces pièces, on voit qu'elles étaient reliques dans des monastères et qu'il y avait dans certains cas des croyances ou des gens qui pouvaient peut-être vénérer le Yéti ou les reliques en question. Oui, malheureusement,
L'ADN a parlé, voilà,
c'est ça. Oui, alors peut-être que maintenant, il faudrait qu'ils réalisent qu'ils ont un ours brun un petit peu spécial, un ours noir un petit peu spécial aussi, et que ça peut peut-être devenir leur emblème local, et si ça peut aider à la préservation de ces populations, ce serait quand même intéressant.
Ben vous irez peut-être les convaincre, Géraldine Véron, faire un petit voyage là-bas pour rencontrer les populations. Tellement triste d'avoir la vérité scientifique donc, autour de ce Yéti. Merci beaucoup à vous, en tout cas pour vos explications. Je rappelle que vous êtes spécialiste des mammifères carnivores. Et Axel, on se retrouve demain.
Et oui, à demain.
Allez. En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, la théorie de Galilée sur la chute des corps dans le vide, passée justement par le test de précision de l'espace, qui confirme une expérience réalisée par un satellite français du CNES, montre que des corps de différentes masses chutent exactement à la même vitesse dans le vide lorsqu'ils sont soumis à la seule gravité. Ce résultat est le plus précis jamais obtenu depuis l'expérience de pensée historique imaginée par Galilée il y a 400 ans. La mesure très précise avec 14 zéros après la virgule était importante à réaliser et malheureusement, d'ailleurs, pour les chercheurs qui, avec un simple écart de décimale, auraient pu imaginer de nouvelles forces élémentaires et peut-être réconcilier à terme la mécanique quantique et la théorie de la relativité générale. Ce ne sera donc pas le cas pour le moment. Le poisson recordman du monde de plongée s'appelle Pseudoliparis wehri. Il intéresse de près les biologistes, découvert à plusieurs reprises par des explorations toujours plus profondes dans la fosse des Mariannes, pouvant atteindre les 8000 mètres de profondeur. Ce poisson est le roi des abysses, seul poisson capable de vivre à ses profondeur. Il est donc le seul maître à bord du sommet de la chaîne alimentaire. Il se nourrit de petits crustacés en aspirant littéralement leur chair avec sa bouche à ventouse. Les chercheurs ne comprennent toujours pas comment ce poisson peut supporter des pressions équivalentes, écoutez bien, sur chaque centimètre de son corps au poids d'un éléphant. Et puis la NASA réinvente la roue pour aller sur Mars après les multiples avaries connues par les roues du robot Curiosity actuellement sur la planète rouge. L'agence américaine planche sur de nouveaux prototypes pour ses rovers. Elle présente d'ailleurs aujourd'hui une roue qualifiée d'indestructible, ressemblant de loin à un pneu gonflé. Elle est en fait constituée d'un maillage souple de métaux à mémoire de forme, un alliage de titane et de nickel qui peut se déformer quasiment jusqu'à l'essieu et revenir à sa position d'origine sans le moindre dommage. Une vidéo de cette roue est visible sur la page Facebook de l'émission si vous souhaitez faire un petit voyage sur Mars.